Oh, la chose qui vient est spécialement dédicacée à tous ceux qui aiment la Méditerranée et à ceux qui adorent s'y plonger comme nous. Oh, que c'est bon, cousin. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh, moi, ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh, moi, ça me rend heureux, elle est pleine de poissons, elle est pleine de poissons. Des petits, des gros, des fins, des longs et même des tout ronds. Certains vivent près du bord et d'autres vivent dans le fond. Certains sont sédentaires et d'autres changent d'horizon. Ils n'ont pas grand chose à faire, ils ne se font pas de mourons. Ils ont leurs identités, moulons de style et de façon. Les petits mangent les verres et les gros les dévoreront. C'est la chaîne alimentaire, il faut que nous la respections. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh, moi, ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh, moi, ça me rend heureux, elle est pleine de marins, elle est pleine de marins. Tous les gens au Fort Saint-Jean leur font un signe de la main. Ils s'en vont pour l'Afrique, ils s'en vont pour l'Asie. Ils viennent des Amériques, ils viennent de l'Océanie. Ils emportent un bout de Marseille et ramènent un bout d'ailleurs. Des souvenirs à l'appel et le récit dure des heures. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle.
Voilà, voilà, et bien bonjour, bonjour à toutes celles... À toutes et celles et ceux qui nous écoutent, Daniel avec vous pour un tout petit moment. Je n'ai pas de retour, je ne sais pas ce qui se passe actuellement. Je vais remettre un peu de musique. Je m'en excuse auprès de toutes celles et ceux qui nous écoutent. Un peu de musique. Voilà, voilà. Eh bien, bonjour, bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Ça y est, je crois que je suis en fréquence, il me semble, ouais. Voilà, ça y est. Bien, aujourd'hui, nous sommes le 14, nous sommes le 10, c'est le 10 février, donc de 2022 l'année. Culture environnement, c'est aujourd'hui. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de parler un peu de ce qu'on appelle du démantèlement des installations nucléaires. Il y a des étapes qui se font, il y a ce qu'on appelle le démantèlement immédiat, il y a des opérations diverses donc pour arriver à démanteler tout ça et en toute sécurité. Alors les étapes du démantèlement, j'y viens et ensuite je passerai aux différents paragraphes de cette émission qui devrait nous accompagner jusqu'à approximativement, pas loin de 3h-10, date à laquelle notre ami Ernesto devrait prendre la relève pour son émission En avant la musica, comme il le dit si bien. Voilà. Allez, je lance. Donc, nous allons voir ce qu'il en est exactement en ce qui concerne le démantèlement des stations nucléaires. Bon, en France, il y a beaucoup d'industries, l'industrie nucléaire civile, qui a pris son essor dans les années 1960. Ça a été le début du nucléaire. Plusieurs installations construites dans cette période sont arrivées donc en fin de vie. Et leur exploitation des fins de production et de recherche a cessé. Elle doit faire l'objet d'une série d'opérations d'assainissement, de démontage, que l'on regroupe sous le vocable de démantèlement. Alors, les étapes du démantèlement se font de la manière suivante. Dès lorsque d'une INB est définitivement arrêtée, celle-ci change de vocation. Le décret d'autorisation de création spécifie, en effet, les conditions de fonctionnement de l'installation. Par ailleurs, les opérations de démantèlement impliquent une évolution des risques présentés par l'installation. Par conséquent, ces opérations ne peuvent être réalisées que dans le cadre fixé par le décret d'autorisation de cette fameuse création. Donc, c'est conformément aux dispositions. Bon, il y a des articles. Je passe sur l'article, mais du Code de l'environnement, le démantèlement d'une installation nucléaire de base prescrit par un nouveau décret pris après avis de l'ASN. Ce décret fixe entre autres les principales étapes du démantèlement et la date de fin du démantèlement et l'état final à atteindre. Délai progérable de 2 ans dans certains cas. Le décret de démantèlement prend effet à la date à laquelle l'ASN approuve la révision des règles générales d'exploitation et au plus tard 1 an après la publication du décret. Il convient donc de distinguer deux grandes phases, dans la vie d'une INB. La phase de fonctionnement d'une installation encadrée par le décret d'autorisation de création des ACDAC. La phase de démantèlement succède à l'arrêt définitif de l'installation encadrée par le décret de démantèlement DEM. Bon, afin d'éviter le fractionnement des projets de démantèlement et d'améliorer leur cohérence d'ensemble, le dossier présenté à l'appui de décret de démantèlement doit décrire explicitement l'ensemble des travaux envisagés, depuis la mise à l'arrêt définitif jusqu'à l'état final, visé et explicité, pour chaque étape, la nature et l'ampleur des risques donc présentés par l'installation, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les maîtriser. Cette demande fait l'objet d'une enquête publique. Les opérations de démantèlement des installations complexes étant souvent très longues, le décret prescrivant le démantèlement pour prévoir qu'un certain nombre d'étapes feront eux-mêmes l'objet, le moment venu, d'une autorisation de l'ASN sur la base de dossiers de sûreté spécifiques. Bon, voilà, ce sont les points d'arrêt. Par ailleurs, le Code de l'environnement prévoit que la sûreté d'une installation en phase donc de démantèlement, comme celle de toutes les autres installations nucléaires de base, fait l'objet d'un réexamen périodique qui a lieu en général tous les 10 ans. L'objectif est de s'assurer par ces réexamens que le niveau de sûreté de l'installation est le plus élevé possible dans des conditions technico-économiques acceptables jusqu'à la fin des opérations de démantèlement. Bon, enfin, à l'issue de son démantèlement, une INB peut être déclassée sur décision de l'ASN homologuée par le ministère chargé de la sûreté nucléaire. La ASN a publié en 2016, donc il y a 4 ans, les mises à jour des guides numéro 6 relatifs à l'arrêt définitif au démantèlement et au déclassement des INB, etc., etc. À l'assainissement des structures dans les INB, la ASN a également publié en 2016 le guide 24, bon, relatif à la gestion des sols pollués par les activités d'une INB. Voilà, c'était une petite approche sur... sur les centrales nucléaires, donc le démantèlement. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le démantèlement immédiat. En 2014, l'Agence internationale de l'énergie atomique a validé 2 stratégies possibles de démantèlement des installations nucléaires, et après l'arrêt définitif. Un outil pour le démantèlement, bon, le plan de démantèlement, etc., etc., etc. Voilà, c'était une petite mise au point sur le démantèlement donc des centrales nucléaires. Je vais maintenant mettre un peu de musique et je reprends l'émission d'ici 2-3 minutes. Allez, j'envoie un peu de musique.
Thank you.
Voilà, je reprends le cours de l'émission. Bien aujourd'hui, c'est nucléaire. Maintenant, les opérations préparatoires au démantèlement, j'y viens. La phase de démantèlement est généralement précédée d'une étape de préparation au démantèlement réalisé dans le cadre de l'autorisation d'exploitation initiale. Cette phase préparatoire permet notamment l'évacuation d'une partie des substances radioactives et chimiques, ainsi que la préparation des opérations de démantèlement, aménagement de locaux, préparation des chantiers, formation des équipes. Et c'est également lors de cette phase préparatoire que peuvent être réalisées les opérations de caractérisation de l'installation, réalisation de cartographie radiologique, collecte d'éléments pertinents, historiques de l'exploitation en vue du démantèlement. Par exemple, le combustible d'un réacteur nucléaire peut être évacué lors de cette phase. L'ASN est attentive à ce qu'aucune opération de démantèlement ne soit réalisée pendant cette phase et que la durée de cette phase soit limitée à quelques années. L'ASN recommande que l'exploitation informe la commission locale d'information des opérations envisagées dans le cadre des opérations de préparation et démantèlement, qu'il informe régulièrement celle du déroulement des opérations et lui présente le résultat à l'issue de leur réalisation. Je continue donc l'émission. Le déclassement et l'état final. Le déclassement est une opération administrative consistant à supprimer l'installation de la liste des installations nucléaires de base. L'installation n'est dès lors plus soumise au régime juridique et administratif des INB. Le déclassement permet la levée des contrôles réglementaires auxquels est soumise une INB. Le déclassement ne peut intervenir qu'après la réalisation de travaux de démantèlement. La justification que l'état final est visé et atteint est éventuellement mise en œuvre de services d'utilité publique. En fonction de l'état final, l'ASN peut conditionner le déclassement d'une INB à la mise en place de servitudes d'utilité publique. Celles-ci peuvent fixer un certain nombre de restrictions d'usage du site et des bâtiments ou de mesures de précaution, mesures radiologiques en cas d'affouillement, etc., etc. Le dossier de demande de déclassement est soumis donc à la consultation de la CLI du préfet des communes environnantes. Et du public, les servitudes d'utilité publique, SUP, servitudes d'utilité publique, quant à elles, l'objet d'enquête public. Conformément aux dispositions de l'article, il y a encore un article, je passe sur le nom de l'article, et l'arrêté du 7 février 2012, l'état final atteint à l'issue du démantèlement doit être tel qu'il permet de prévenir les risques ou inconvénients que peut présenter le site. Pour les intérêts mentionnés à l'article, etc., du code de l'environnement. Je passe sur le nom de l'article. Compte tenu notamment des prévisions de réutilisation du site ou des bâtiments ou des meilleures méthodes techniques d'assainissement et de mantèlement disponibles dans les conditions économiques acceptables. Voilà. Les risques, les enjeux maintenant, et oui. Nous allons voir ce qu'il en est exactement. Risques et enjeux. Même arrêter les installations nucléaires en fin de vie représentent des risques qu'il convient de maîtriser. Les substances radioactives doivent être évacuées, l'installation démantelée, puis assainie. Bon, ces opérations présentent des enjeux particuliers en termes de dosimétrie. Les travailleurs devaient aller bien souvent au contact des équipements qui contenaient des substances radioactives pour le démonter. De gestion des déchets radioactifs qui sont produits en quantité bien plus importante que lors de la phase de fonctionnement. De risques classiques dans la mesure où certaines opérations de démantèlement s'apparentent aux travaux de déconstruction pratiqués dans le BTP. De risques liés à la perte de mémoire, de conception et d'exploitation et du maintien des compétences. Des risques liés à une surveillance inadéquate pouvant entraîner sur le long terme la pollution du site ou de son environnement. Bon, les stratégies du démantèlement en France maintenant, bien sûr. La SN considère que le choix actuellement retenu par les grands exploitants français d'un démantèlement immédiat est satisfaisant, dans la mesure où celui-ci permet, entre autres, de ne pas en faire reporter la responsabilité sur les générations futures, c'est-à-dire sur ceux qui viendront après nous. L'ASTM estime en effet que le maintien dans un état de sûreté satisfaisant des installations à l'arrêt dans l'attente d'un démantèlement différé conduit à des dépenses importantes de surveillance, de maintien, en état éventuellement de jouvence, ainsi qu'à des difficultés de motivation des effectifs présents et de perte de mémoire de l'historique et de l'exploitation. Bon, la stratégie d'un démantèlement immédiat est également conforme aux recommandations de l'Agence internationale d'énergie atomique. Retour sur l'historique des stratégies de démantèlement. Début des années 1960, première opération d'assainissement, de démantèlement d'installation nucléaire. Année 1960-1970, démantèlement de quelques laboratoires de recherche, réacteurs expérimentaux et installation du cycle combustible. À partir du milieu des années 1980, plusieurs réacteurs de puissance sont partiellement démantelés ou ont entamé les travaux de démantèlement complet. Année 1980-1900, un démantèlement ponctuel de certaines installations principalement de recherche. À partir de la fin des années 1990, les opérations de démantèlement entrent dans une phase industrielle, employant des technologies et des méthodologies approuvées sur les plus grandes échelles. Et à partir de 1997, changement important stratégique chez les grands exploitants nucléaires français. 2006, la loi TSN déchets met en œuvre un mécanisme de provisionnement des charges de démantèlement et de gestion des déchets. 2015, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui s'inscrit dans la loi, le principe du démantèlement immédiat. Voilà. Je vais maintenant mettre un peu de musique et continuer l'émission sur le même thème. Après, je passerai sur quelque chose d'un peu différent. Allez, je mets un peu de musique. Voilà, pardon, j'ai une chair dans la gorge. Bien, le financement du démantèlement maintenant. Afin que les exploitants donc, nucléaires soient en mesure de gérer leurs déchets radioactifs, ce qui n'est pas gagné, leur combustible usé, le transport hors site dans des conditions satisfaisantes tant du point de vue de la sûreté nucléaire que de la radioprotection. Il est alors nécessaire qu'ils disposent le moment voulu de moyens financiers suffisants. Il en est de même pour le démantèlement des installations nucléaires de base et pour la gestion des installations de stockage de déchets radioactifs. Bon, ainsi, il y a la loi du 28 juin 2006 sur la gestion durable des matières des déchets radioactifs, apposée dans son article, codifié aux articles, etc., etc. Je passe sur l'article. Et suivant du code de l'environnement, les bases d'un contrôle de financement, des charges de long terme, des exploitations nucléaires. Alors le principe, la loi exige que les exploitants nucléaires évaluent de manière prudente les charges de démantèlement de l'installation et de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs. Dans le même temps, ils doivent constituer les provisions correspondant à ces charges et affecter à titre exclusif à la couverture de ces provisions, les actifs nécessaires. Ces actifs doivent présenter un degré de sécurité et de liquidité suffisant. Le provisionnement se fait sous le contrôle direct de l'État, qui analyse la situation des exploitants et peut prescrire les mesures nécessaires en cas de constat d'insuffisance ou d'inadéquation. Dans tous les cas, ce sont les exploitants nucléaires qui restent responsables du bon financement de leurs charges de long terme. Voilà. Ces charges se répartissent en 5 catégories. Charges de démantèlement hors gestion à long terme, des déchets radioactifs. Charges de gestion des combustibles usés hors gestion à long terme, des colis de déchets radioactifs. Charges de reprise et conditionnement de déchets anciens RCD hors gestion à long terme, des colis des déchets radioactifs. Charges de gestion à long terme de colis de déchets radioactifs, voilà. Et charges de surveillance après fermeture des stockages, voilà. Tout ça, c'est à surveiller. L'évaluation des charges considérées doit être selon une méthode reposant sur une analyse des options raisonnablement envisageables. Pour conduire les opérations, sur le choix prudent d'une stratégie de référence, sur la prise en compte des incertitudes techniques et des aléas de réalisation et sur la prise en charge du retour d'expérience. Modalités de mise en œuvre de contrôle. Les modalités de mise en œuvre par les exploitants de contrôle par l'autorité administrative sont précisées dans encore un décret. Je passe sur le décret du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires et complété par l'arrêté du 21 mars 2007. En application de l'article etc du code de l'environnement, c'est l'article quand même 594-4 du code de l'environnement, les exploitants d'installations nucléaires de base transmettent tous les 3 ans à l'autorité administrative un rapport décrivant l'évaluation des charges mentionnées à l'article ci-dessus du code de l'environnement, les méthodes appliquées pour le calcul des provisions correspondant à ces charges et les choix retenus en ce qui concerne la composition, la gestion des actifs affectés, la couverture de ses provisions. Ces rapports sont les derniers, dont les derniers ont été remis en 2016, sont instruits par la Direction générale de l'énergie et du climat, du ministère de la Transition écologique et solidaire. Par ailleurs, les exploitants doivent remettre annuellement une note d'actualisation de ce rapport triennal. L'ASN intervient en appui technique du ministre chargé de l'énergie en apportant sa connaissance sur les scénarios et hypothèses retenus par les exploitants, voire plus généralement sur les différents aspects de la méthodologie d'estimation des charges. Il y a encore un décret, c'est le décret du 23 février 2007, qui prévoit notamment que l'ASN saisie par la DGEC examine la cohérence de la stratégie de démantèlement de gestion des combustibles et de déchets radioactifs. La loi a également créé une commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement, des installations nucléaires de base et de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Bon. Pour évaluer le contrôle de l'adéquation aux provisions, des provisions aux charges futures et de la gestion des actifs, elle doit remettre un rapport au Parlement, au comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. Ce rapport est public, rapport de la CNE a été publié en 2012. Bon, dans tout ce qui a été dit, on voit que tout ceci n'est pas une œuvre très facile en ce qui concerne le démantèlement des centrales nucléaires. Et pour finir, l'installation en cours de démantèlement, j'y reviens. Voilà. C'est dit. Donc, en définitive, il faut démanteler et tout mettre en sécurité. Et je reste là pour le démantèlement donc, des stations des centrales nucléaires. Je vais maintenant mettre un peu de musique et passer à un autre sujet. Allez, va un peu de musique. One son in awe, questioning what his man saw. He explained, too unique, but it was like he morphed into Gigantor. Crowds gather like inquiring minds, the panelists. Pen scribbling with more thoughts than psychoanalysts. Underhand suspects, check for a clear coast. I've influenced an independent movement like Pedro Abiso Campos. I expect to connect and lift to the next sector. Take the light you shine and spin it back like a bike reflector. Move with the word, observe the hidden type phenomenon. Play players of the dark age with a designer armor on. Wondering murder it was. Left no fingers and footprints, an intelligent mind. Clever, however, this crook thinks, for crook is a bad word. I'm raising knives and illin', doing my people favors and saving lives by killing. Consider me hero, my body resume is jam-packed. Starting a war, you either stand up or stand back. This man's whack, out of his brain, he just do what he says to do. You wanna see him hurting and killing the rest of you? I'm a psychopath, sick of the psychopaths. Ticking for him, ready to blast. 30 man cleaning the trash. But don't get it twisted, I'm only after a certain disease. Cause what I'm talking about, Charles, is hurting MCs. Whether eyes closed or blindfold, who's mad enough to brawl and roll?
Éloigne s'applique pas de la même façon selon les cas. Tes droits ne seront pas défendus pareil selon ton avocat. La justice ne peut donc pas être la même pour tous. Le coupable A plus B, y'a eu trop de cas suspects. Des tas d'erreurs aux conséquences lourdes sur une existence. Quand ton innocence ne fait aucun doute, tu deviens le bouc émissaire. Un coup de poker peut foutre ta vie en l'air. Un coup de fil, un coup de vis.
Voilà, je reprends le cours de l'émission pour quelques minutes. Après, qu'on s'appelle les centrales nucléaires, où j'ai donné un peu d'informations sur ce que les, sur le démantèlement de ces centrales, démantèlement qui pose toujours des problèmes de qui peuvent poser des problèmes techniques. Bien, nous allons maintenant faire un petit tour. Il y a 60 ans. 60 ans, à cette époque-là, j'étais encore jeune. Maintenant, j'ai pris un peu de l'âge. La catastrophe du barrage de Malpassé dans le Var, il y a 60 ans, faisait 423 morts. Le 2 décembre 1959, la rupture du barrage de Malpassé dans le Var a fait 423 morts, dont 135 enfants et d'innombrables dégâts matériels. Ce chiffre est celui d'une plus grande catastrophe du XXe siècle en France, le 2 décembre 1959. Et alors, 60 ans, jour pour jour, le barrage Malpassé dans le Var cédait après un épisode de pluie diluvienne. En fait, il y a eu malfaçon dans la défication de ce barrage. À 21h30, une vague formée par la rupture du barrage haute de plus de 40 mètres a déferlé dans la plaine à une vitesse de 70 km/h, emportant tout sur son passage. Au total, ce sont près de 50 millions de mètres cubes d'eau qui se sont déversés dans la vallée du Rayan. Et jusqu'à Fréjus avait été inondé. Avant d'atteindre la mer, 20 minutes, le bilan est terrifiant. 423 personnes trouvent la mort, dont 135 enfants. 155 immeubles détruits. Les dégâts matériels sont également considérables. 155 immeubles sont entièrement détruits. 1000 hectares de terres agricoles ravagées, de nombreuses routes et voies ferrées détruites. À l'époque, les travaux du barrage étaient achevés, depuis 5 ans seulement. Si plusieurs causes sont pointées du doigt, comme l'absence d'études géotechniques, sérieuse ou l'ouverture tardive de la vanne de vidange, le Conseil d'État finit par écarter toute responsabilité humaine dans un arrêté du 28 mai 1971. L'État indemnise finalement les victimes. Et 60 ans après, c'est encore sous intempéries que la région commémorera la catastrophe des inondations. On de nouveau touché le Var, etc., etc., etc. Et au moins, 5 personnes sont décédées. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs inondations dans ce département du Var. Voilà. C'était un petit rappel sur ce fameux barrage de Malpassé qui a fait tant de morts de toute façon, et d'une manière ou d'une autre, si vous passez par Malpassé, vous y verrez certainement les vestiges de ce fameux barrage qui avait cédé par rapport aux malfaçons qui avaient été lors de son édification. Allez, je vais essayer de mettre un peu de musique. Et je reprends l'émission d'ici quelques minutes.
I know it is a universal. children are crying, their mom is undying, yeah. And while the grasses is a-growing, Lord knows, all the horses is a-starving, yeah. But Nanny knows, at the sun universal, universal tribulation.
Voilà, je reprends le cours de l'émission encore pour quelques minutes, il est 14h38, avant de laisser la place à notre ami Ernesto avec son émission En avant la musique, comme il le dit si bien. Bien, climat. Réchauffement climatique, bon, tout le monde en parle. Est-ce qu'il y a réellement un réchauffement climatique? Ça, c'est une certitude, mais qu'est-ce qu'il en est exactement? Difficile de savoir ce qu'il en est exactement. Mais 90% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe. Voilà. À raison bon, des activités humaines, mais comment est-ce que le dérèglement climatique fonctionne? Quelle activité humaine en sera la cause? Quelles sont les conséquences pour la planète et ses habitants, flore et faune, humains compris? Voilà, c'est une vidéo. Enfin, vous ne la verrez pas, mais je vais quand même vous la commenter. Climat des décennies d'inaction politique, c'est-à-dire les politiques n'ont jamais rien fait en ce qui concerne ce climat, pratiquement. Selon le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat sous l'égide donc de l'ONU, le lien entre le dérèglement climatique et l'exploitation fossile est extrêmement probable, c'est-à-dire avéré à 95%. Mais pourquoi les gouvernements ne bougent-ils pas? Comment les groupes pétroliers minimisent les études sur le dérèglement climatique? Qui finance les lobbies industriels? Et il y a beaucoup de réponses qui se font, croyez-moi. Prendre les choses en main, oui, il faudrait prendre les choses en main, mais nos hommes politiques ne voient pas du même œil que nous. Chacun de nous peut quand même agir à son échelle pour réduire son impact sur le climat, car les alternatives qui permettent de faire face au dérèglement climatique existent bel et bien, oui. Elles sont nombreuses et ont prouvé leur efficacité. Vous pouvez notamment les découvrir lors de l'une des étapes du Tour Alternativa qui avait eu lieu, donc il y a des archives là, en 2018. Voilà. Bon, autre ressource, bien sûr, comment se déplacer en polluant moins, comment prendre soin de nos sols, comment consommer de façon plus responsable, etc. Et comment sauver le monde? Ça, c'est une question très, très, très importante. Comment sauver le monde? Voilà. Je n'en dirai pas plus sur ce sujet-là, mais effectivement, il y a quelque chose. Mais, voilà. Comme je l'ai bien dit, nos hommes politiques ne sont pas très axés sur l'environnement. Il est 14h41. Je vais mettre un peu de musique. Je reprends l'émission encore pour quelques minutes. Avant d'ordre de l'antenne, comme je l'ai dit, et que notre ami Ernesto, lui, prenne la relève. Allez, va, un peu de musique. Voilà, je reprends le cours de l'émission encore pour quelques minutes. Bien, les espèces. Bon, les espèces, bon, je veux dire par là que ce n'est pas... je ne veux pas parler d'argent, hein, je ne veux pas parler d'argent. Les espèces sont, s'appellent, ce sont tout simplement les animaux. Jusqu'à 1 million d'espèces pourraient être menacées d'extinction. Cela en rapport de l'ONU. Et ceci dit, pour des raisons que l'on connaît. Bon, la biodiversité sur les 8 millions d'espèces estimées, donc 5,7 millions d'espèces d'insectes sur la planète, 500 000 à 1 million d'espèces devraient être menacées d'extinction dans beaucoup dans les prochaines décennies. Voilà. L'état des lieux de la biodiversité est aussi inquiétant que les prévisions sur le changement climatique. Près de 1 million d'espèces animales et végétales seraient menacées d'extinction, dont beaucoup dans les problèmes dans les prochaines décennies, selon un projet de rapport de l'ONU sur la biodiversité, l'Organisation des Nations Unies. Eau potable, forêts qui absorbent le CO2, insectes pollinisateurs nécessaires aux cultures aux poissons, etc., etc. La plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité, les services... écosystémique, va se réunir depuis près de 15 ans. Le début de la 6e extinction de masse, maintenant, le rapport de 1800 pages sur lequel travaillaient 150 experts de 50 pays depuis 3 ans, était accompagné d'un résumé pour les décideurs qui était discuté. Ligne à ligne et adopté par les 50 pays des membres de l'IPES. Voilà. Sur les 8 millions d'espèces estimées, dont 5,5 millions d'espèces d'insectes sur la planète, 500 000 à 1 million d'espèces devraient être menacées d'extinction, dont beaucoup dans les prochaines décennies. Ce fameux texte. Ces projections correspondent aux mises en garde de nombreux scientifiques qui estiment que la Terre est au début de la 6e extinction de masse. La première attribuée à l'homme qui a déjà fait disparaître au moins 680 espèces d'invertébrés depuis 500 ans. Bon, l'agriculture, la pêche et la chasse, premières responsables, la disparition de cette biodiversité a un impact réel sur l'homme. Nourriture, énergie, médicaments, les apports que les gens tirent de la nature sont fondamentaux pour l'existence et la richesse de la vie humaine. Sur Terre, la plupart d'entre eux ne sont pas totalement irremplaçables. Mais en garde ce fameux texte. Par exemple, plus de 2 milliards de personnes dépendent du bois pour l'énergie, 4 milliards utilisent une médecine naturelle, 75% des cultures ont besoin d'être pollinisées par des insectes, premiers responsables de cette sombre situation. L'utilisation de terres agricoles, d'exploitation, etc., etc. Exploitation forestière, mine, et l'exploitation directe de ressources, pêche-chasse. Bon. Viennent ensuite le changement climatique, les pollutions, les espèces invasives, dont l'impact est à ce jour relativement moins important, mais ça accélère. Mais le texte met aussi en avant les liens entre cette perte de biodiversité et le changement climatique, parfois encouragé par les mêmes facteurs. En particulier, le modèle agricole dans un monde de plus en plus peuplé. Le rapport estime que, d'autre part, que 3/4 des surfaces terrestres, 40% de l'environnement marin et la moitié des cours d'eau ont été gravement altérés. Voilà. C'est dit. Il est 14h47, je vais mettre un peu de musique, je reprends l'émission d'ici 2-3 minutes. Voilà, je reprends le cours de l'émission. Il est 14h49, notre ami Ernest ne va pas tarder à venir. Un petit tour à Norvège. Alors, à Norvège, les élevages d'animaux à fourrure seront interdits d'ici 2025. Voilà. Donc, nous allons voir ce qu'il en est exactement en ce qui concerne les ours. Pas que les ours. Les défenseurs donc de la cause animale sont en passe de gagner une bataille en Norvège. Le gouvernement a présenté ce mercredi un texte visant l'interdiction d'ici à 2025 des élevages d'animaux à fourrure. Bon, cette décision résulte d'un accord politique conclu en janvier 2018, lorsque le gouvernement de droite s'était élargi au petit parti libéral. Le projet de loi envoyé au Parlement interdit la possession après février 2025 d'animaux voués à être tués en vue d'une vente ou d'une quelconque autre utilisation de la fourrure. Voilà. Cela va amener les éleveurs tout droit à la faillite. Ben ça, on s'en fiche un peu. Les éleveurs, eux, ont dénoncé le niveau d'indemnisation financière y voyant une trahison historique. On nous propose quelques couronnes qui sont loin de réparer le démantèlement programmé des élevages, etc., etc., etc. Donc voilà où nous en sommes au point de vue vie animale. Bon, le gouvernement estime environ 500 millions de couronnes, 52 millions d'euros la somme à verser aux éleveurs. Donc les éleveurs demandent des compensations financières par rapport à la fourrure donc de ces animaux. Voilà, il est 14h51, je rends l'antenne. Merci de votre écoute et je vous dis à mercredi pour Article 25. Notre ami Lucien n'étant pas là aujourd'hui, je pense qu'il sera avec nous. Mercredi pour l'émission politique, sociale et revendicatif. Allez, je lance le générique. Au revoir à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Thank you.
Alors la chose qui vient est spécialement dédicacée à tous ceux qui aiment la Méditerranée et à ceux qui adorent s'y plonger comme nous. Oh, que c'est bon, cousin. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh, moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh, moi ça me rend heureux, elle est pleine de poissons, elle est pleine de poissons. Des petits, des gros, des fins, des longs et même des tourons. Certains vivent près du bord et d'autres vivent dans le fond. Certains sont sédentaires et d'autres changent d'horizon. Ils n'ont pas grand chose à faire, ils ne se font pas de mourons. Ils ont leurs identités moulons de style et de façon. Les petits mangent les verts et les gros les dévoreront. Mais la chaîne alimentaire, il faut que nous la respections. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh, moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh, moi ça me rend heureux, elle est pleine de marins, elle est pleine de marins. Tous les gens au Fort Saint-Jean leur font un signe de la main. Ils s'en vont pour l'Afrique, ils s'en vont pour l'Asie. Ils viennent des Amériques, ils viennent de l'Océanie. Ils emportent un bout de Marseille et ramènent un bout d'ailleurs. Des souvenirs à l'appel et le récit dure des heures. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh, moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh, moi ça me rend heureux, elle est pleine de jolies filles, elle est pleine de jolies filles. Aussitôt qu'arrive l'été, aussitôt que le soleil brille. Bikini, monokini, des nudes de corps des demoiselles. Sous le ciel de Marseille, elles apparaissent.